France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
C'est donc la sortie finalement sous les éditions Réunion des musées nationaux Grand Palais que paraît ces jours-ci, le 18, exactement 18 juin, La Belle et la Bête. Le texte original du conte pour enfants est toujours là, bien sûr, dans son style 18e siècle. Et puis, les dessins de Jules, la polémique, vous vous en souvenez, des dessins jugés trop second degré pour être mis dans les mains des 10-11 ans, disait l'Éducation nationale. Le livre qui devait être distribué juste avant les vacances ne le sera pas, une décision très tardive, mais implacable. Ce qui nous donne envie d'y revenir, maintenant que tout le monde peut juger, c'est pas tant la polémique que le second degré, l'humour, l'ironie. Est-ce que dans toutes ces notions-là sont CM1, CM2 compatibles? Les enfants ont-ils un second degré? Est-ce que l'humour leur échappe? Et c'est la porte ouverte à de mauvaises interprétations. Est-ce qu'ils comprennent bien plus d'ironie que nous? Est-ce que nous projetons sur eux des craintes, des mauvaises interprétations qui, eux, leur passeraient totalement au-dessus? Est-ce qu'ils ont le recul nécessaire pour comprendre les contextes? Est-ce qu'ils nous dépassent, les enfants, complètement? Faut-il toujours les accompagner dans la lecture? Est-ce qu'on peut laisser filer? Ils comprendront par eux-mêmes l'ironie, peut-être, ou alors on leur expliquera après. Est-ce que ça s'apprend d'ailleurs l'ironie? Est-ce que ça s'apprend grâce aux adultes? Comment faire appréhender les registres, les contextes, les niveaux de lecture? Quel est le rôle de la littérature jeunesse? Est-ce qu'elle doit jouer ce rôle-là? Est-ce qu'elle le fait d'ailleurs? Ou est-ce que parfois les auteurs se censurent eux-mêmes? Est-ce que c'est là aussi qu'on fait le lien entre le texte et l'image, ou qu'on le sépare justement le texte et l'image, et on y reviendra? Est-ce qu'on a peur? Qu'est-ce qu'on a peur? Qui a-t-on peur de heurter quand on surfe sur l'humour et le second degré? Est-ce que c'est nous, les adultes, avec nos bagages, avec nos connaissances? Est-ce que c'est les enfants réellement et leurs références à eux? C'est le téléphone sonne, les amis, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Rama, vous êtes le premier et vous êtes le bienvenu. Bonsoir.
Bonsoir.
On vous
merci.
Écoute.
Donc j'ai laissé un message pour dire que je trouve absolument terrifiant de prendre les enfants pour des crétins. Mes enfants, lorsqu'ils avaient 9-10 ans, ont lu de Jules La Croisade s'amuse, Il faut tuer José Bové, ils ont vu Monty Python, ils ont lu d'autres livres de Dave McKean que je trouve fabuleux parce que justement il ne prend pas les enfants pour des crétins et il les aborde comme des êtres subtils. Et cette histoire me choque énormément. En revanche, la véritable histoire de La Belle et la Bête, la toute première, est sinistre. Cette œuvre...
Bah, sinistre comme les contes en général, d'ailleurs. Hein. D'une manière générale, Rama, je ne me souviens pas de contes qui ne soient pas sinistres. Mais en tout cas, on a entendu ce que vous nous disiez, ce que vous faisiez lire à vos enfants. Merci beaucoup. Pour en discuter ensemble jusqu'à 20h, Jules est là, justement. Bonsoir, Jules.
Bonsoir.
Vous êtes dessinateur de presse, vous êtes auteur de bande dessinée. Le livre, c'est celui-là, La Belle et la Bête. Donc, publié désormais au Grand Palais, Réunion des Musées Nationaux Éditions.
Voilà.
Voilà. Lucie Cosmala est là également. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et formatrice spécialiste en littérature jeunesse. Et il y a Patrick Bensoussan qui est pédopsychiatre. Bonsoir.
Bonsoir.
Même vous, je vous ai voutiqué, Jules, quand notre ami Rama nous a dit qu'il avait fait lire la Croisade s'amuse à ses enfants.
En fait, je passe ma vie à être perpétuellement surpris par, je dirais, la malice et l'espièglerie des enfants, très jeunes, très souvent, qui arrivent à lire des choses qui... Parce que là, on parlait de La Belle et la Bête, qui était réellement destinée, qui a été écrit à destination des élèves de CM2, donc vraiment adapté vraiment en littérature jeunesse. Ces bandes dessinées, Silex and the City ou La Croisade s'amuse, c'est destiné plutôt aux adultes, avec plein de références politiques, mais c'est vrai que les enfants s'en emparent. Et bien souvent, ils nous stupéfient, justement, à la fois de distance aux choses, et en même temps, ils comprennent beaucoup plus vite qu'on ne peut espérer. Et donc, cette chose-là, c'est qu'en général, on conduit avec le pied sur le frein quand on s'adresse aux enfants, mais évidemment, c'est le moment où le cerveau est le plus perméable, où il y a le plus de, je dirais, d'ingénuité aussi, et donc où, sans penser à mal, on réussit à maîtriser tous les codes de l'humour. Et je pense peut-être que c'est quand on devient ado, qu'on devient un petit peu plus conventionnel, qu'il y a l'effet de groupe, et qu'on perd ce second degré magique de l'enfance. Et je pense que l'entretenir avec une littérature jeunesse qui fait la part belle à ça, et on pense à Roald Dahl, à Tommy Ungerer, aux géants de la littérature jeunesse, ils ont ça en fait, ils ont ce petit twist.
On reviendra sur le pied sur le frein dont vous parliez tout à l'heure. Jules, juste un mot quand même, je me demandais, quand vous écrivez, quand vous dessinez pour les enfants, vous écrivez d'ailleurs parce que vous scénarisez Lucky Luke, est-ce que de toute façon, les différents niveaux de lecture, on y pense, on sait qu'il y aura différents niveaux de lecture, donc on sait en écrivant une blague ou quelque chose que on sait qu'il ne la comprendra pas, on sait qu'il la comprendra, on sait qu'il prendra mal. Est-ce qu'on y pense quand on écrit ça ou pas ?
Bah, on y pense, au bout d'un moment, on a de la bouteille d'une certaine façon, spécialement voilà, dans le domaine de l'humour, hein, parce qu'il y a des aventures pour enfants qui parfois peuvent être dures, il faut se poser la question, on raconte des choses tragiques, ce qui n'est jamais mon cas. Moi, effectivement, moi, j'essaie de tourner, de jouer avec le langage, de jouer avec les situations, de faire des personnages marrants, mais qui racontent quelque chose un peu plus profond. Et donc, on s'enfonce, je dirais, dans une problématique, dans une thématique, en fonction de son âge, en fonction de sa sensibilité. En fait, il faut être généreux d'une certaine façon. Et donc, quand on fait une édition de La Belle et la Bête, c'est le texte original du 18e, donc la langue...
Donc le texte est rude, hein, un peu pour les enfants quand même.
Enfin, le texte est exigeant, mais finalement, c'est une très belle langue simple.
Absolument.
Fait, on a très peu de notes qui expliquent les mots comme ça, donc c'est pour ça aussi qu'on a choisi ce livre. Il est limpide, on se dit, putain, mais en fait, le 18e siècle, il est pour tout le monde, toute classe sociale, toute origine, c'était ça qui était important aussi dans cette opération, parce que sans doute, les gens qui vont appeler ce soir au téléphone sonne, bah, ils écoutent France Inter, ils sont déjà... ils réfléchissent à tout ça, et donc c'est pas forcément tous les gens, toutes les familles, notamment ceux qui n'ont pas forcément de livres de librairie près de chez eux, pas forcément de livres à la maison. Et c'était eux qu'on essayait de toucher, et c'est ça qui est encore plus triste.
Ce qui reviendra beaucoup dans cette émission, Lucie Cosmala, c'est l'accompagnement, en fait. Et moi, je me demande, et c'est la question qui sera récurrente, est-ce qu'effectivement, on accompagne, mais on sait bien que tous les parents ne peuvent pas accompagner leurs enfants dans la lecture, ou est-ce qu'au contraire, la littérature jeunesse, elle est faite pour ça, en fait ? Est-ce que le rôle de la littérature jeunesse, c'est typiquement ça ? C'est d'aller toucher à l'ironie, toucher à l'humour, toucher aux interdits, toucher à tout ça. Et puis on voit un peu comment le gamin l'absorbe ou pas.
Bah, moi, ce que je trouve merveilleux avec la thématique de l'humour, c'est que les livres humoristiques, c'est le plus beau moment de partage qu'on peut avoir avec un enfant. Donc, bien sûr que moi, j'aurais tendance à plutôt encourager l'accompagnement des parents par rapport aux livres. Après, bah, comme l'a dit votre auditeur au début, c'est vrai qu'au-delà de prendre les enfants pour des crétins, je trouve qu'il y a plusieurs choses. Il y a déjà faire confiance effectivement à l'intelligence des enfants, qu'on peut mésestimer hein, quand même, faut se l'avouer. Et je pense qu'il faut se faire confiance en tant que parent, parce que moi je pense aussi que les parents ont envie de se rassurer en donnant le bon livre à leur enfant, qui va les faire rire, qui va pas les traumatiser, etc. Donc je pense que ça part quand même d'une volonté d'être un bon parent, donc je peux un peu les déculpabiliser par rapport à ça. Ils savent éduquer leurs enfants. Donc les livres qu'ils vont leur offrir, ça va aussi être en fonction de leur sensibilité. Ils les connaissent. Il y a toujours cette question qui vient, que ce soit en librairie ou même moi en tant que journaliste, on me demande, mais c'est pour quel âge ? Et à chaque fois, moi je réponds aux parents, mais c'est vous qui connaissez votre enfant. C'est vous qui savez quel est son niveau de lecture, d'habileté à lire tout seul.
Je le disais, parfois on met le pied sur le frein. Je me demandais si jusqu'à quel point, et est-ce qu'on le sait d'ailleurs, les auteurs de littérature jeunesse, est-ce qu'on dit s'autocensure en fait ? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à employer ce mot-là ou où est-ce qu'il faut ? Alors, on n'est pas encore aux États-Unis à avoir des, comment on appelle ça, des sensitivity readers. Mais est-ce qu'on en est à confronter son texte à d'autres, en fait, pour être absolument sûr ? Et surtout, est-ce qu'on le fait beaucoup plus aujourd'hui qu'on ne le faisait il y a encore 5 ans ou 10 ans ?
Alors, c'est vrai que vous parlez des sensitivity readers, qui, pour moi, ne sont pas une mauvaise chose. C'est vrai qu'on voit ça comme une forme de censure, alors qu'au contraire, j'avais discuté avec deux autrices, alors plutôt littérature young adult, qui sont Nine Gorman et Marie Alino. Elles disaient qu'elles avaient fait appel à des sensitivity readers qui leur avaient, du coup, permis d'explorer une thématique avec d'autres nuances. Donc, en fait, ça a enrichi leur histoire plutôt que ça les a censurés. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une sensibilité sur certains sujets, qui ne me semble pas être une mauvaise chose non plus. On fait un peu plus attention à ce qu'on dit, on va faire attention aux stéréotypes qu'on véhicule, on va faire attention aux questions de représentation. Après, sur la question de l'autocensure, alors, je ne suis pas dans la tête de tous les auteurs, les autrices, je ne suis pas dans la tête de tous les éditeurs, les éditrices. Je pense que quand même, c'est plus les prescripteurs et les parents qui vont avoir peur de mettre entre les mains des enfants.
C'est ce qu'on projette livres, nous aussi, voilà. Et on y viendra après. Il y a eu une période où c'était la violence et le sexe qu'on disait attention, mets de côté, mais aujourd'hui, le genre, la race, enfin, il y a beaucoup de choses qu'on regarde avec une forme de suspicion et qui rend les choses plus difficiles. J'aurais savoir ce qu'en pense notre pédopsychiatre Patrick Bensoussan. Le sens de l'humour, ça vient tout seul ou ça s'acquiert, hein, en fait, ou ça fait partie des acquis aussi des enfants au fur et à mesure ?
Oui, enfin ça c'est pas une découverte quand on tombe dans la marmite et que tout à coup on devient plein d'humour, ça, on y accède dans le temps, c'est un apprentissage en soi, Et ça arrive très précocement, hein. On a pu montrer, ça c'est en particulier en Angleterre, qu'ils ont fait beaucoup d'études à ce propos-là, autour de la question de l'humour. On a pu montrer que les tout-petits étaient sensibles à l'humour dès leur première année de vie. Hein. Donc il y a là une qualité.
Mais l'humour et l'ironie, Monsieur Bensoussan, c'est deux choses qui sont très différentes. Ça marche sur des lignes parallèles, mais c'est très différent, l'humour et l'ironie.
Ah oui, oui, l'humour c'est très accessible très précocement, hein. On le dit dans la première année de vie. Pour l'ironie, il va falloir attendre un petit peu quand même, parce que ça oblige un certain stock lexical, un certain stock mémoriel, à une capacité à pouvoir agencer les modes de relation, et en particulier affectives, émotionnelles, etc. Donc ça, c'est vraiment, c'est une élaboration en soi. Hein. C'est pas du tout quelque chose qui s'inscrit très directement dans le développement d'un enfant. Ça demande un certain temps avant que les enfants soient sensibles au caractère ironique, au second degré, ou à ces éléments-là.
On va voir qui surévalue ou sous-évalue en fait la capacité de compréhension des enfants. Je voudrais d'abord qu'on écoute Antonia. Bonsoir Antonia.
Bonsoir.
On vous écoute.
Je vais être extrêmement redondante avec tout ce qui a été déjà dit, parce que je rejoins complètement l'avis de votre premier auditeur. Moi, je suis humoriste et je fais des spectacles qui sont pas du stand-up, mais vraiment des sketchs un peu à l'ancienne, avec des personnages, des situations, c'est assez cartoonesque. Il y a un petit côté un peu clown, grotesque dans ce que je fais, donc je force vraiment le trait. Et très souvent, j'ai des parents qui me demandent ou qui demandent à la production, est-ce que le spectacle est adapté aux enfants? Et moi, ce que je réponds souvent, c'est que c'est faire insulte à l'intelligence de leur enfant, de ne pas imaginer que leur enfant est capable de prendre ce qu'il voudra dans un spectacle, tout comme il prend ce qu'il veut dans un livre, et qu'en général, un enfant qui ne comprend pas un livre ou qui sent qu'il n'est pas adapté à lui, il va reposer le livre. Il va pas aller creuser. Et dans un spectacle, c'est un peu pareil. Un enfant, il pioche ce qui l'intéresse. On a tous été enfants, on a tous été confrontés à des blagues qu'on comprenait pas. Mais ça fait partie aussi de notre chemin d'adulte, d'être confronté à des choses qu'on comprend pas forcément, de demander, et puis de comprendre au fur et à mesure. Moi, mes enfants sont venus voir tous mes spectacles. Elles n'ont pas compris les mêmes choses aux différents âges auxquels elles sont venues. Et puis, moi, sur mes tracts, quand je participe au Festival d'Avignon, notamment, je marque que le spectacle, c'est à partir de 12 ans, 10 ans pour les enfants de gauche. Et en règle générale, ça fait marrer les gens parce que...
Moi, ça me fait marrer, en tout cas.
Voilà, merci. Et je pense que, voilà, c'est faire un pas vers l'âge adulte. Voilà, moi, j'ai vu mes enfants comme Jules à Roald Dahl. Je trouve que les Sensitivity Readers, notamment sur des auteurs dont l'œuvre est revue, je trouve ça terrible en fait. Je trouve ça terrible parce que c'est perdre la saveur d'une époque aussi. Et je pense qu'on est tous un peu le reflet de notre époque. Mon second degré aujourd'hui n'est pas le même second degré qu'il y a 10, 15, 20 ans. L'humour, c'est quelque chose de très périssable. Et je pense qu'on change tous. Mais je trouve ça très triste. Et je dis aux gens. C'est faire insulte à votre enfant et à son intelligence que de demander s'il peut venir voir le spectacle.
Et voilà, et peut-être qu'il trouvera ça génial, ou peut-être qu'il va s'emmerder à 100 sous, le pauvre, mais en même temps, probablement qu'il n'en mourra pas. On va faire une toute petite note en bas de page sur les Sensitivity Readers, effectivement, pour les gens qui nous écoutent. Ce sont des gens, effectivement, c'est très anglo-saxon, ça commence à arriver en France, qui relisent les livres pour s'assurer qu'il n'y a rien qui pourrait heurter, en fait, à la fois des sensibilités, ou des groupes de gens, ou des minorités, etc. C'est à ça que ça sert. Les différents niveaux de lecture, Jules, c'est aussi, effectivement, c'est ce que dit notre auditrice, quand on lit, en fait, il y a des choses là-dedans, mais dans les Lucky Luke et dans autre chose, d'ailleurs, que les enfants ne verront pas, ça va leur passer complètement au travers. Deux ans après, ils le verront. En revanche, c'est ça qui est bien, au fond.
C'est ça, parce qu'un livre, c'est pas comme une expérience de réseau social, avec cette espèce de chose très immédiatement consommée, qui apparaît sur l'écran, remplacée par une autre chose. Un livre, il y a une sacralité du bouquin pour enfants. En fait, c'est une forme d'humour qui se savoure, qui se lit à son propre rythme. Et en plus, chaque enfant lit plus ou moins rapidement, aux différents âges, capte plus ou moins vite. Et cette espèce de décantation-là, petit à petit, effectivement, en fonction de l'âge, le fait que le livre reste dans une famille, que les frères et sœurs le partagent, on va comprendre quelque chose avec la fratrie du dessus, qui va se marrer, il dit « mais pourquoi, qu'est-ce qu'il y a de marrant ?» Et il explique, il n'y a pas que les parents, en fait. En fait, le livre, c'est un objet partagé. Et que ce soit dans une classe, que ce soit dans une famille... il y a cette vertu-là collective de l'humour. Et c'est un des trucs qui est chouette aussi avec l'humour, c'est que ça peut être un plaisir solitaire et un plaisir partagé. Et cette espèce de lien social, il est super important. La caricature, c'est ça. Et donc l'éducation au second degré, comme on disait, c'est fondamental pour la vie d'adulte et de citoyen, par ailleurs. Parce que si on place pas ces petites graines, comme ça, de petits poussés sur le chemin, on est perdu et ça donne des trucs beaucoup plus tragiques quand on peut plus, quand on est adolescent, supporter ben, un dessin d'actualité, un dessin de presse, une caricature. Ça donne les drames qu'on connaît, ça donne l'expérience d'un Samuel Paty dont le travail au collège était de présenter à des collégiens qui avaient justement, qui étaient dépourvus pour certains de second degré et de clés pour lire tout ça, et ça donne des choses qui sont totalement hors de contrôle. Il faut apprendre le second degré aux enfants à l'école primaire.
Ne pas préserver les enfants de l'humour et du second degré, c'est un peu la question que j'allais vous poser, Lucie Cosmala, entre censurer, comme on disait tout à l'heure, ou protéger les enfants, parce qu'en général ça se fait aussi dans ce but-là, on pense qu'on protège les enfants. Est-ce que vous diriez désormais, et aujourd'hui, qu'effectivement, et peut-être qu'on en a un exemple, que la littérature jeunesse est sous surveillance aujourd'hui, beaucoup plus qu'elle ne l'était avant. Est-ce qu'on peut le dire aussi franchement que ça?
Alors, il y a quand même une loi qui régit la censure dans la littérature jeunesse, loi de, j'ai plus la date, 49, ouais, c'est ça. Donc quand même, on sait que les livres pour enfants, on fait pas n'importe quoi, on raconte pas n'importe
Qu'est-ce
quoi.
Qu'est-ce qu'elle dit d'ailleurs, cette loi? Enfin, alors, je vais pas vous demander la lettre, hein, pardon, mais ça
beaucoup.
Dit quoi?
Mais ça va clairement régir le fait qu'il n'y a pas de sexe explicite en littérature jeunesse,
d'accord,
okay, attention à la violence, voilà. Donc on a quand même
Mais c'est intéressant, donc il y a le sexe, la violence, j'imagine, la politique peut-être, ou des choses de ce genre-là?
Ah, je sais pas, parce que, je pense que...
Mais du coup, est-ce qu'il y a le genre, est-ce qu'il y a la race, ou est-ce qu'on a mis des alinéas à cet article 49? Ou est-ce qu'on est à deux doigts? Est-ce qu'on est à deux doigts de mettre des alinéas, vous voyez, dans l'époque qui est celle qu'on vit aujourd'hui?
Moi, je suis pas aussi pessimiste, en fait. Je trouve que quand même, on a fait une avancée dans l'idée de faire attention à ce qu'on raconte aux enfants, de véhiculer une image de la diversité la plus large possible, et d'essayer de faire attention quand on parle, de personnes racisées ou de la place des femmes, etc. De toujours avoir quand même en tête de faire les choses de façon moderne et plutôt contemporaine. Donc, moi, je vois pas forcément ça comme quelque chose de négatif, sauf quand ça prend des proportions qui, d'un coup, touchent à la frilosité, à une peur de mal faire qui est telle que, on va refuser la moindre petite blague un petit peu grinçante, en fait.
La question que ça pose, c'est celle d'une espèce de normativité, en fait, où au fond, chaque bouquin pour enfants ressemblerait à un autre bouquin pour enfants, si ce n'est qu'on change les personnages ici et là, on met un chien à la place d'un chat, etc. Mais à la fin, c'est la même histoire.
Mais c'est pas mon image de la littérature jeunesse, en fait.
C'est sans ma question,
moi,
ce serait extrêmement triste.
D'un point de vue, la production actuelle, elle est tellement riche, elle est tellement dynamique, et on va avoir aussi des types d'humour, parce que là, on parle du second degré, et etc. Mais on va avoir aussi des livres qui vont proposer de l'humour de situation, de l'humour de la langue, enfin... Je pense que si je parle de PEF et de La Belle d'Espoir du mot tordu, les gens vont se remémorer le fait d'avoir ri de ça. Donc il y a quand même beaucoup de types d'humour. Et je pense qu'au contraire, la société fait qu'on peut rire de nouvelles choses. Je pense à un livre qui s'appelle Patatouille, qui est paru aux éditions Ne compte pas pour du beurre. Patatouille, c'est une espèce de créature, un espèce de monstre tout poilu, qui en fait trouve que les garçons...
Il y a de la concurrence dans le monstre poilu, si je peux me permettre. Donc,
Pas de remarques personnelles.
Ah là là, concurrence. Et c'est un monstre qui va dire au petit héros que les garçons, ils n'ont pas le droit de se laver, qu'il ne faut pas qu'ils portent du rose, etc., etc. Et ça va jouer du cliché, en fait. Ouais. À tel point qu'à la fin, le monstre, il est bien content de pouvoir mettre la robe de la Reine des Neiges et de pouvoir chanter Libéré, délivré. Donc en fait, moi je trouve que ça enrichit aussi l'humour d'aujourd'hui. L'humour, il est mouvant, en fait. Et je trouve que la littérature jeunesse est en plus un des plus bels exemples et la meilleure façon de voir à quel point la société évolue.
Voici Lila, qui est enseignante. Lila, bonsoir. Ce sera pour vous, Patrick Bensoussan, cette remarque. Bonsoir Lila.
Oui, bonsoir.
Quand
j'ai commencé ma carrière il y a une quinzaine d'années, je me suis rendu compte avec stupéfaction que certains élèves de sixième n'avaient pas la moindre notion du second degré. Donc par exemple, j'ai déjà répondu à un élève qui me demandait en quelle couleur j'écris, en vert kaki à rayures, bien entendu, et il a éclaté en sanglots parce qu'il n'avait pas de stylo kaki à rayures. J'ai exactement la même anecdote avec un fluo bordeaux à paillettes, et aussi à une élève qui me demandait où écrire à la fin de sa page. J'ai eu le malheur de répondre sur ta table en plaisantant, et j'ai dû plonger en catastrophe sur sa table pour éviter qu'elle ne le fasse vraiment.
Quand je pense que ma mère me disait bouffe-toi une main, garde l'autre pour demain quand j'avais faim, heureusement que je ne l'ai pas prise au premier degré, sinon où j'en serais aujourd'hui. Mais du coup, vous êtes enseignante depuis longtemps ou pas, Lila?
Ça fait quasiment 15 ans.
Et vous avez le sentiment que ça n'a pas bougé ou est-ce que vous le voyez évoluer, peut-être avec l'âge de vos élèves d'ailleurs, peut-être que vous le voyez même ce passage où ils comprennent que bah oui, c'est juste une blague et non, il ne faut pas écrire sur la table.
Ça s'arrange vers la fin de 5e, début 4e, mais j'ai longtemps proscrit le second degré en 6e parce que ça fait quand même beaucoup de mouchoirs et beaucoup de psychodrames à régler en direct et j'étais pas prête à l'époque.
Proscrire le second degré parfois, Patrick Bensoussan, monsieur le pédopsychiatre, qu'est-ce que vous dites de ça? Il faut, oui, parfois proscrire le second degré avec les enfants. En tout cas, peut-être qu'il faut savoir jauger celui qui saura l'entendre et celui qui ne saura pas l'entendre, qui est trop jeune pour l'entendre.
Oui, c'est pas tant une question de proscrire qu'une question,
dosage,
comme vous le dites, d'entendement et de compréhension. Il y a une jolie histoire que Françoise Dolto rapporte dans son livre qui s'appelle Autoportrait. Elle raconte l'histoire qui est arrivée à son père, donc il a à peu près 5 ans à cette époque, et ils sont en pique-nique à la campagne, et le grand-père donc lui dit « Eh ben voilà, t'as les bouteilles de vin, on va rafraîchir le vin, va mettre le vin dans le ruisseau. Mm-hmm. » Et donc le père de Dolto va au ruisseau, les bouteilles de vin et les verse dans le ruisseau. Ouais. Et puis, quand le père lui dit, au bout d'un certain temps, bah, tiens, tu peux ramener les bouteilles, maintenant le vin est frais, eh ben, bien sûr, il n'y a pas de bouteille parce que le vin est parti dans le ruisseau. Ce à quoi il est sensible à ce moment-là, hein, ce que raconte le père de Françoise Dolto, c'est qu'il dit que, ben, d'abord, il a été maltraité par son père, qui lui dit, mais quel imbécile, je n'ai jamais dit de vider les bouteilles, etc. Donc, il dit qu'il a vécu un moment de honte particulière parce que il a été marqué par cet épisode et il a eu l'impression de rien y comprendre, de pas participer à ce moment festif et d'être marqué, mais il le répète, hein, à vie, par rapport à ce qu'il a vécu. Donc, ce temps-là de ces effets, en tout cas, de ces paroles qui sont plus complexes à pouvoir comprendre dans l'humour, on évoquait l'ironie tout à l'heure, le double sens, caché ou pas, etc., ça demande une certaine maturité. Alors, je serais moins plein d'élan comme vos précédents interlocuteurs pour dire que la question de l'adresse, c'est quand même une question importante et que, bien entendu, toute les personnes que vous avez écoutées à l'instant, ils sont sensibilisés à ces questions, ils accompagnent leur enfant, ils sont présents autour d'eux, etc. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Et les enfants peuvent se retrouver parfois dans des situations qui sont compliquées, avec des ouvrages, devant des écrans, dans lesquels ils reçoivent des informations qui ne sont pas, dont ils n'ont pas les moyens pour pouvoir en comprendre quelque chose et en digérer quelque chose.
Jules.
C'est vrai, les effets de contexte sont toujours très très importants et on fait attention, de toute façon, quand on fait des blagues, quand on travaille dans le champ de l'humour, que ce soit sur scène ou dans l'écriture, on pense à la personne qui va recevoir. Il faut qu'on se fasse comprendre, on n'est pas drôle tout seul dans une espèce de vide stellaire hypothétique. C'est toujours un truc relationnel. Et l'avantage par rapport aux écrans du livre, c'est encore une fois, je répète ça, sa temporalité. Le fait qu'on puisse reposer, réfléchir, le dessin est toujours là, le texte va être toujours là, 5 minutes après, si on y revient. C'est pas comme quelque chose justement dans une situation, dans une classe, ou dans une situation sociale où on comprend pas une blague et on se sent humilié. Au contraire, c'est très ouvert. Il n'y a pas de côté excluant. On ouvre un livre, c'est comme des bras qui s'ouvrent. Hein. Ouais. L'objet même est très incluant, en fait.
Registre, contexte, lexique, en fait. J'ai l'impression qu'il y a ces trois mots à ne jamais oublier, au fond, quand on met un bouquin, une BD, des dessins dans les mains d'un enfant.
Oui, même la sensibilité de l'enfant aussi. Enfin, là, on parle d'humour. Je pense que, comme les adultes, il y a des enfants qui sont plus sensibles à certains types d'humour que d'autres. Donc, pour moi, c'est aussi, encore une fois, une question de comprendre l'enfant, de... Alors, bien sûr qu'on...
Et après, c'est jusqu'à quel point c'est grave, en fait. Parce que même si, puisque je reprends votre bouquin, Jules, même si il y avait eu l'histoire avec le père qui boit un moment, et pour remettre les gens dans le contexte, si vous vous souvenez de La Belle et la Bête, il arrive dans le château, il n'y a personne, il est fatigué, la table est mise, il en profite, il mange bien, et il boit bien aussi, donc du coup, il va se coucher, il a trop picolé. Bon. La question, c'est, au fond, est-ce que l'interprétation qu'on en fait est grave, en fait, ou pas? Et à ça, moi, j'ai pas la réponse, en fait. Est-ce que l'interprétation qu'on en fait est grave, même si elle est à côté, Jules?
Mais surtout, j'ai l'impression qu'il y a une expérience très, très profonde de tout ça. En l'occurrence, cette histoire du père qui boit un coup de vin, pour reprendre exactement les mots de 1746, c'est assez moderne, d'ailleurs, la façon dont elle raconte le truc. Voilà, des personnages qui boivent, il y en a des millions dans toute la littérature jeunesse depuis toujours. penser au capitaine Haddock et sa bouteille de whisky, à Astérix et Obélix avec leur cervoise, etc. Donc en fait, les enfants, ils ont vu ça mille fois, donc ils comprennent très bien. Et effectivement, personne ne va avoir ce côté censeur, prude, pudibond que peuvent avoir certains adultes qui projettent leur propre névrose, leur propre éventuellement agenda politique, si on a vraiment une pensée très réac, sur ce que les enfants doivent penser, doivent faire. Et ce truc-là est important, c'est-à-dire que je pense que les enfants ont une liberté intrinsèque et naturelle, et c'est surtout depuis là-haut, on impose une forme de normativité qui n'est pas naturelle.
Et alors après, moi, ce qui m'épate, en fait, c'est qu'il y a des histoires comme celle qui nous a traversées sur La Belle et la Bête, et en préparant cette émission, j'ai été demander ceux qui ont des enfants ici, dans le couloir à la rédac, et Hélène Philly, qui fait le 19h, m'a dit qu'en ce moment, son fils lisait Monsieur Qui Pue. Et Monsieur Qui Pue, alors ça s'écrit K-I-P-U, mais enfin, c'est Monsieur Qui Pue, c'est un clodo, Monsieur Qui Pue. Donc, il pue vraiment, le début, parce qu'il est accessible gratuitement, donc on peut vraiment lire le début, et la description du Monsieur Qui Pue, il schlingue vraiment littéralement, enfin, tous ces mots sont utilisés. Et du coup, je me demandais, alors après, il est très sympa, il se fait copain avec une petite fille qui s'appelle Chloé, tout ça, il leur arrive plein d'aventures. Mais du coup, je me demandais, ce personnage-là, après, on se trimballe avec son enfant dans la rue, qui tombe sur un SDF, qui fait « Ah, monsieur qui pue !» c'est quand même un très très grand moment de solitude, ce genre d'affaire, ou au contraire, c'est ça qu'il faut, au fond, provoquer, en fait, à votre avis, Lucie Cosmala?
Bah, l'exemple de l'œuvre même très globalement de David Walliams, que ce soit Monsieur Qui Pue ou moi j'adore Mamie Gangster, voilà, la mamie qui a une vie secrète de gangster, c'est qu'il y a cette idée de, on fait de l'humour aussi avec ce qui entoure les enfants. Et je pense que c'est là où ils sont le plus réceptifs, c'est quand on prend des personnages qui sont finalement, mais je pense juste aussi au papa qui boit, enfin, combien de parents à Noël sont complètement, complètement bourrés.
C'est mal.
Et finalement, je le sens moque. Et je comprends pas pourquoi d'un coup, tout le monde s'insurge, alors que finalement, il faudrait un petit peu d'autodérision de la part des parents.
Ce qui entoure les enfants, alors c'est le cas dans votre livre, Jules, mais c'est le cas aussi dans d'autres, c'est aussi de jouer le décalage, en fait. Le texte est du XVIIIe siècle, donc effectivement, il est très clair, mais assez compassé. Et vous avez fait des personnages dans les illustrations, les filles sont influenceuses, elles sont sur leur téléphone tous les quatre matins.
Alors ça, c'est
etc.
les sœurs méchantes, justement. En fait, il y a une vertu éducative à l'humour, et on passe aussi des messages. Et en fait, j'ai voulu aussi faire ça. Ce livre, on l'a travaillé avec toutes les équipes du ministère de l'Éducation nationale, de l'éditeur et tout, pour que ce soit quelque chose de vertueux. En gros, le message du livre, c'est laissez tomber les écrans, lisez des livres. Parce que la belle, elle est courageuse, elle est généreuse, elle est intéressante, et elle joue du clavecin. Elle lit des bouquins. Alors que c'est ses sœurs qui sont un petit peu débiles, qui passent leur vie sur les réseaux sociaux pour essayer de trouver un fiancé. Hein, parce qu'évidemment, au XVIIIe siècle, la grande activité pour les jeunes filles, c'est la course au mari, hein, la course au fiancé, peut-être encore aujourd'hui dans certains milieux. Mais en attendant, c'est justement des contre-exemples. Hein, mais de pouvoir faire résonner avec des choses d'aujourd'hui. Évidemment, elles ont des grandes robes, il y a des châteaux merveilleux, il y a de la magie et de la féerie. Mais il y a aussi, parfois, quand elle rentre à la maison, elle se met en converse, elle a son jean, elle bouquine sous une lampe, sous le spot, sur un pouf, les livres qu'elle a choisis. Et si on n'a pas ça, si on ne tend pas la main vers cette génération-là qui, de fait, se détourne des livres, de fait, se détourne des classiques, si on ne leur dit pas on a quelque chose en commun à travers les siècles, à travers les générations qui nous constituent, et on n'est pas qu'une espèce d'immédiateté d'influenceurs de réseaux sociaux, on les perd. Et là, il y a une dissociation des générations qui est consternante et qui est affolante, pour nous tous, quelle que soit notre génération.
Ce que je trouve intéressant, Patrick Bensoussan, c'est que, vous qui voyez des enfants depuis longtemps, les contes qu'on a tous lus dans notre enfance, donc j'allais dire les contes basiques, en fait, et ceux qui n'étaient pas illustrés avec des dessins en décalage, pouvaient parfois être nettement plus violents, finalement, que ce qu'on lit aujourd'hui, y compris dans la littérature jeunesse, qui a pris un essor absolument considérable. Et je me demandais si vous aviez le sentiment, peut-être dans les parents que vous voyez accompagnés de leurs enfants, si vous sentez, vous, une espèce de frilosité que peut-être avant vous sentiez moins. Est-ce que je me trompe ou pas ?
Je ne suis pas sûr qu'il y ait une grande frilosité. D'abord, il y a eu une évolution notoire, hein, ça a été dit, dans le champ de la littérature de jeunesse, qui s'est incroyablement développée, en particulier grâce à des techniques tout à fait nouvelles. Hein, où maintenant, il y a de l'imagerie, de la bande dessinée, des photos, des dessins. Enfin, c'est d'une richesse inouïe. Les thématiques qui sont développées de plus en plus essayent de toucher la réalité, on l'a dit tout autant, hein, de l'environnement actuel des enfants. Et c'est vrai que les présupposés projet qu'on avait quand on était gosse des générations précédentes, c'était quand même très restreint. Il y avait quelques ouvrages qui étaient censés être ce qu'on se passait les uns les autres. Il y avait
les. Mais c'est un outil, Monsieur Bensoussan, pour vous, la littérature enfantine ou pas, la littérature jeunesse ou pas? Est-ce que ça peut être un outil pour le pédopsie que vous êtes?
Ouais, enfin, je hais le mot outil dès qu'on parle d'enfants. mais bon, ça c'est tout à fait autre chose. Aujourd'hui, vous voyez, il faut constamment outiller tout le monde. On outille les parents dans leur parentalité, on outille les enfants dans leur capacité à gérer les émotions.
Je cherche un synonyme, mais je ne le trouve pas. Mais vous voyez ce que je veux dire.
Est-ce
que,
oui. L'idée, ça dépasse amplement la question de l'outil. Ça fait partie du réel même, du quotidien, de la rencontre avec la vie, avec la culture. Il y a là, dans la matérialité même de l'objet livre, dans ses thématiques, dans ce qu'il propose, et surtout, dans ce qui a été évoqué, qui s'appelle la rencontre partagée, la lecture partagée. Quand on se retrouve à passer un temps ensemble, à lire un livre avec son tout petit ou avec son plus grand, et là, il y a vraiment un moment qui est un moment très élu, dont les enfants se souviennent incroyablement par la suite. Ils disent, même quand ils sont grands, tu te souviens, on a lu ce livre, etc. Quoi. Donc, il y a quelque chose qui fait que la rencontre autour du livre, ça a été évoqué sur la modalité du livre incluant, c'est vraiment un moment incroyablement fort de rencontre sociale, affective, émotionnelle, et si en plus elle est esthétique, elle est cognitive, vous voyez la richesse de ce projet.
Voici Mathilde qui nous attend. Bonsoir Mathilde.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Alors, je vous appelle pour raconter une anecdote qui m'est arrivée avec mes deux garçons. L'âge, tous les deux à peu près le même, quand ils avaient juste l'âge de dire papa ou maman, et pas plus. Dans un moment d'échange, chacun m'a appelé papa et après a éclaté de rire. Ça m'a beaucoup troublée. Je me suis demandé si je rêvais ou s'il m'avait vraiment fait une blague. J'avais cette sensation qu'il m'avait fait une blague. Et après, quand à l'école maternelle, dès la toute petite section, les maîtresses me disaient que nos enfants ils comprenaient l'humour et que même le second degré, je me suis dit qu'il n'allait peut-être pas complètement rêvé. Et j'ai oublié de préciser que mon compagnon, il utilise beaucoup l'humour, il a beaucoup d'humour et en fait facilement des blagues, et je pense que c'est ce côté-là, quand on est formé à l'humour, si ça vient facilement. Moi, dans ma famille, c'était pas le cas, et du coup, ça m'a vraiment étonnée. Et l'humour, le second degré, ils l'ont vite compris, et c'est vraiment un outil après. Quoi.
Moi, j'ai l'impression que... Merci beaucoup, Mathilde. Moi, j'ai l'impression que ça nous a manqué, nous, cette génération. Jules, vous êtes un peu plus jeune que moi, et vous, Lucie Cosmala, encore plus. Donc, vous avez été biberonnée, peut-être, à ça. Il y a toute une génération, mais c'est peut-être celle-là, d'ailleurs, qui hésite avec ce genre de livre où ça n'existait pas. On n'avait pas ça, en fait. On n'avait pas ces outils, Monsieur Bensoussan. On n'avait pas ça à notre disposition. On avait les livres et on avait le moment où les parents disaient ça, tu peux y aller, ça, tu peux le lire, ça, vas-y, essaye, tu verras, c'est bien. Mais l'accès à l'humour, finalement, pas tant que ça, en fait.
Peut-être que ça s'est généralisé et diversifié.
On avait des trucs très basiques, on avait les Astérix, on avait les Lucky Luke.
C'est pas si basique que ça, et puis ça a 80 ans. Et puis c'est vrai que, malgré tout, la comédie, l'humour, elle est présente. Il y avait moins de choix. De même qu'il y avait moins de chaînes de télé, moins de chaînes de radio. Mais pour autant, la qualité de l'humour n'était pas... Voilà, quand Jean-Paul Sartre, dans Les Mots, raconte en fait ses lectures d'enfants, et là on remonte vraiment, on a évoqué le cas du père de Françoise Dolto, je me demande si c'est pas déjà dans La Russie tsariste, ça remonte à très longtemps, et il y avait quand même de quoi se marrer. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que le réel n'a pas de limite dans le champ de l'humour, et peut nous raconter plein de choses. Donc en fait non, il faut pas avoir peur, et justement, faut pas s'imaginer qu'il y a des époques qui se prêtent au rire et d'autres non. C'est une vertu universelle, et à chérir comme un des plus grands trésor.
C'est souvent drôle, Lucie Cosmala, la littérature jeunesse, ou pas, ou en fait, ou c'est plutôt aller chercher, alors pour le coup, j'en sais rien, les peurs, les envies, ce qu'il peut y avoir dans la littérature jeunesse.
Non, c'est quand même une partie très très importante de la littérature jeunesse, et en plus, l'humour qui peut être déployé dedans est vraiment exceptionnel, c'est aussi pour ça que j'adore les livres pour enfants. Ça va être très présent aussi dans les romans 9-12 ans, enfin vraiment les premiers romans, mais ça tend à se perdre à l'adolescence. C'est vrai que étonnamment, il y a une espèce de déperdition du comique dans les romans ados.
C'est là qu'on est dans les Hunger Games, dans les choses un peu plus dures.
Très dommage en fait, parce que les ados aussi, ils ont besoin de rigoler quand même.
Et nous toujours, adultes que nous sommes. Ce sera pour vous la dernière question, Monsieur Bensoussan, là-dessus, très rapidement, s'il vous plaît. Justement, sur les phases, en fait, les moments où on est petit, on apprend ça, on est réceptif à l'humour, on a envie d'y aller, et puis arrive l'adolescence, où peut-être qu'on voit les choses un peu différemment, puis on y retournera un peu plus tard, en étant jeune adulte, justement.
Oui, enfin, on l'a bien dit, hein, et de façon répétée, l'humour, ça fait partie de la vie. Hein. Vous savez, je vais vous parler de cette équipe de Bristol autour de Elena Iolka, qui a beaucoup évoqué le développement de l'humour depuis la toute petite enfance. Hein. Et elle évoque d'ailleurs très précisément le fait qu'il y a là tout un élan cognitif dans l'humour. Hein. Faut pas croire que quand on rit, c'est seulement de la galéjade, on se tient le ventre et on se marre, et puis on passe à autre chose sur le mode de la légèreté. Non. Comprendre l'humour, comprendre les éléments de second degré, essayer d'avoir accès au stock lexical qui nous permet ça, connaître la langue, les références qui sont utilisées par les uns et les autres, c'est un vrai travail pour les enfants et dans leur développement. Ça concerne le développement des petits, et puis pendant la scolarité, on voit combien ils sont intéressés par toutes ces questions-là, avec tout l'humour pipi-caca en fin de maternelle par exemple, et puis après. Mais les plus grands, quand vous évoquez la question de l'adolescence, ils ont pour le moins d'autres préoccupations. Mmh. Et là, on est aussi, vous savez, dans un mode très d'infantisme, hein, pour reprendre des choses qui sont évoquées là depuis quelques années seulement, hein, cette grande capacité de discriminer les enfants, en fait, hein, et de mettre en avant tout un ensemble de préjugés qui vient poser que les enfants ne comprennent pas, les enfants
Et on a bien compris, pardon, je vous coupe, parce que vraiment on y est, mais on a bien compris qu'ils comprenaient beaucoup plus que parfois ce qu'on imaginait, et c'est tant mieux. Travaillons notre humour. Quand on voit l'actualité d'aujourd'hui, on se dit qu'on a largement de quoi faire. Merci beaucoup.